Bonjour à tous, je m'appelle Joseph, je suis né en l'an 10, après Jésus-Christ. Alors on pourrait donc dire qu'on est en 2002 après Joseph, mais à mon époque, il y a quelqu'un qui a quand même révolutionné le monde un peu plus que moi, si bien qu'on dit qu'on est en 2012 après Jésus-Christ. Mais bon, je ne suis pas jaloux parce que moi j'apparais dans vos Bibles. Vous voyez, c'est quand même la classe quoi, parce que vous y êtes pas, moi j'y suis, voyez. Et je suis dans l'évangile de Luc. Si vous voulez m'accompagner, je vais vous montrer quand même où est-ce que j'apparais, parce que c'est pas tous les jours qu'on apparaît dans un best-seller comme celui-là. L'évangile de Luc, Nouveau Testament, au chapitre 15, c'est là que je suis. Je suis au verset 1, juste là. Dès le verset 2, déjà, j'y suis plus, mais le verset 1, j'y suis. Est-ce que quelqu'un veut bien lire le verset 1 du chapitre 15 de Luc, s'il vous plaît ?
Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre.
Et voilà. Ça en jette, non ? Enfin, c'est quand même bon. On ne me voit pas beaucoup, parce que bon, j'étais dans la foule, là, au milieu de tout le monde, mais j'étais là, moi. J'étais là pour l'entendre. J'étais là pour l'écouter, Jésus. Alors, ce jour-là, il a raconté tout un tas d'histoires, des paraboles. C'est comme ça qu'il appelait ça, lui, des paraboles. Et aujourd'hui, je voudrais partager l'une d'entre elles avec vous, voyez, parce qu'il y en a une qui m'a touché plus que les autres. Les autres, je n'ai pas tout compris, mais celle-là, j'ai bien compris, voyez. Et c'est l'histoire de ce papa-là qui avait deux fils. Vous devez la connaître, mais enfin, on va quand même la lire ensemble, si vous voulez bien. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et il partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste alors que moi ici je meurs de faim ? Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds, amenez le veau engraissé, abattez-le, mangeons, faisons la fête, parce que mon fils que voici était mort. Et il a repris vie, il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. C'est beau, non ? C'est beau cette histoire. Moi, cette histoire, elle m'a touché parce que cette histoire, elle me rejoint dans ma vie. Et il y a une chose que je sais, c'est qu'elle peut vous rejoindre dans la vôtre également. Ma vie, on peut la résumer facilement. Moi, dans ma vie, j'ai été rebelle, j'ai été mort, puis maintenant, je suis vivant. Je suis vivant. J'étais mort et je suis revenu à la vie. Et moi, j'aimerais bien vous parler un peu de ça, pour une raison toute simple. C'est parce qu'on est tous dans la même barque. Des rebelles, des morts, des gens qui reviennent à la vie, il y en a plein les rues, il y en a plein les églises. Et ce que j'aimerais, c'est que vous essayiez de penser un petit peu ce matin, où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre vie ? Est-ce que vous êtes rebelle ? Est-ce que vous êtes mort ? Est-ce que vous êtes vivant ? Et je vous invite à être attentif, particulièrement si vous pensez être au clair sur où vous vous situez. Êtes-vous rebelle ? Alors moi, j'ai été un rebelle typique. J'ai même eu les cheveux courts, c'est vous dire. Oui, parce que à l'époque, la mode, c'était par là. Bon, moi, j'avais tout fait couper. Tout a commencé, comme souvent, quand je suis rentré à la fac. La belle et grande fac de Jérusalem, vous voyez. Et là, j'ai commencé à entendre des slogans du type, alors, n'ayons pas peur des anachronismes, hein. La religion, c'est l'opium du peuple. Vous la connaissez, celle-là. La foi, c'est une béquille pour les faibles. Les Saintes Écritures, c'est un recueil de contes pour enfants. Et je dois dire que ça m'a touché. Ça m'a bouleversé. Je me suis mis à réfléchir. Il paraît que ça sert à ça, la fac. Et alors j'ai pensé, c'est vrai. Je crois que c'est vrai, parce que moi, on m'avait toujours dit qu'être un adulte, c'est être autonome, c'est être capable de se débarrasser d'une certaine manière de son papa, de sa maman, non ? De vivre sa vie tout seul, non ? Un adulte, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de ses parents. Et moi, qu'est-ce que je voulais ? Ben, je voulais être un adulte. Je voulais être un adulte. Alors, vous avez vu le jeune de la parabole, ce qu'il a fait. Il est allé voir son père, puis il lui a dit « Allez, c'est l'heure, là. Donne-moi ton héritage. Donne-moi ma part. Parce que moi, ce que je veux, c'est pas être ici, c'est pas être avec toi. Moi, ce que je veux, c'est courir le monde, c'est vivre ma vie. » Alors, peut-être que, vu d'ici, ça paraît pas si terrible, cette demande. Mais enfin, à l'époque, ça consistait simplement à dire au père « Moi, je veux que tu meurs. Voilà, je veux que tu meurs. Ça ne m'intéresse pas d'être ici avec toi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as. Et c'est ça que je veux, moi. » Et moi, j'ai fait pareil. Je suis allé voir Dieu, mon Père Céleste, dans la prière, et puis je lui ai dit « Je veux que tu meures. Je veux que tu meures dans ma vie. Je veux être autonome. Je veux être un adulte. Laisse-moi tranquille. » Alors, je vous avertis, il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on dit à Dieu. Parce que il n'est pas pénible, Dieu. Si vous voulez qu'il meure dans votre vie, eh bien, il va vous laisser tranquille. Il ne va pas s'imposer. Il va s'en aller. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que si vous demandez à Dieu de vous ficher la paix, ce que vous allez trouver, ben, c'est la guerre. La guerre dans votre monde intérieur. Alors, au début, non. Au début, ce n'est pas la guerre. Au début, c'est grisant. Au début, c'est cette sensation unique du « tout est possible, tout est réalisable, tous les horizons sont ouverts ». On peut passer. Et ça, on peut en aboutir justement à une vie spirituelle à la carte, et je crois que c'est ça, la débauche du jeune homme de la parabole. On goûte à toutes les philosophies, toutes les religions, toutes les manières de penser. On n'a plus de port d'attache. On se laisse balloter au gré des rencontres, des lectures, des mœurs de la société, on essaye Bouddha, on essaye Krishna, Mahomet, on flirte avec l'athéisme, l'hédonisme, tous les ismes qui nous passent sous la main. Dans le meilleur des cas, je dirais qu'on rentre dans une de ces voies et puis on s'y investit. Dans le pire des cas, et le plus courant, je crois, eh ben on fait une espèce de melting pot et puis on se crée sa propre petite religion personnelle à vivre chez soi, tout seul. Alors avec tout ça, je ne veux pas dire que c'est une mauvaise chose de s'intéresser aux autres manières de comprendre le monde et la vie. Ce n'est pas ça que je veux dire. D'ailleurs, Paul l'a fait. Il l'a fait à Athènes. Il a regardé les Athéniens, il s'est intéressé à eux. Et puis après un temps d'observation, il leur a dit « Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Parce qu'en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Eh bien, ce Dieu que vous révérez sans connaître, c'est celui-là, moi, que je vous annonce. Alors, Paul, il s'est intéressé au Dieu des Athéniens, mais il ne l'a pas fait n'importe comment. Il l'a fait à partir de son enracinement en Jésus-Christ. La rébellion vis-à-vis du Dieu de la Bible, ce Dieu que nous croyons créateur du ciel et de la terre, c'est faire exactement ce qu'a fait Paul, mais en dehors de ce profond, enracinement. Et là où il y a rébellion, eh bien, il y a besoin de réconciliation. Alors certains objecteront que pour se rebeller contre quelqu'un, encore faut-il le connaître. Quand on ne connaît pas Dieu, comment on peut se rebeller contre lui ? Est-ce que c'est possible ça ? Est-ce que ceux qui ne le connaissent pas peuvent se rebeller ? Eh bien, on peut se rebeller parce que l'existence de Dieu est évidente. On peut passer. Dieu est-il connu ou Dieu est-il inconnu ? Alors plus tard, on fera fonctionner notre réflexion, mais là, je veux en appeler à vos émotions, à vos émotions. Je voudrais vous proposer de sortir un matin, avant l'aube, de monter sur le plateau de Gergovie, du côté est, et puis de vous asseoir là, seul, en silence, et de regarder l'aurore se lever. Et je voudrais vous inviter à vous laisser porter par ce que vous voyez. Mais alors, vous laissez porter vraiment, voyez ? Vous laissez aller presque à votre sens poétique, pourquoi pas ? Parce que moi, je crois que là, à ce moment-là précis, vous avez votre opportunité de rencontrer le Créateur, de le voir à travers sa création. Et d'ailleurs, Paul le dit aussi. En d'autres termes, lui, il dit « Ce qui chez lui, ce qui chez Dieu est invisible, aussi bien sa puissance éternelle que sa divinité, se voit parfaitement depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne à travers le créé. » Et la conclusion de Paul, elle peut nous déranger parce qu'il n'y a pas de main morte, mais elle est sans appel. Il dit que les hommes sont donc inexcusables, inexcusables, parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et ça, on le trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, 19 et 20. Alors finalement, qui s'est rebellé contre Dieu ? Eh bien, la réponse, elle est on ne peut plus simple, on ne peut plus limpide, et c'est encore Paul qui nous la donne. On est tous dans la même barque. Autrement, il le dit, une fois de plus, il ne le dit pas dans ces termes, lui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Tous ont péché. Le pape, Marilyn Manson, vous, moi. Et le problème, le vrai problème, c'est que le salaire du péché, nous dit la Bible, eh bien vous le savez, non ? C'est la mort. C'est la mort. Il y a un Dieu qui a créé le monde, un monde qu'il a organisé non seulement au moyen de lois physiques, si tu mets ta main au feu, ça fait mal, de lois morales, si tu trompes ton conjoint, ça fait mal, et pas qu'à ton conjoint, mais aussi de lois spirituelles. Et l'une de ces lois spirituelles, c'est que le péché mène à la mort, pour la bonne raison qu'il nous sépare de Dieu et que Dieu, c'est la vie. Quand moi, Joseph, je suis allé voir mon Père Céleste et que je lui ai demandé de mourir dans ma vie, ce que je lui ai demandé, en réalité, c'est de me laisser tâtonner dans le noir, persuadé que moi, j'y verrais assez clair pour me diriger tout seul. Et très franchement, on n'a encore rien trouvé de mieux pour se perdre. Alors bien sûr, j'ai plus senti sa présence. Alors évidemment, j'en ai déduit que vraiment Dieu était mort. Mais si je sentais plus sa présence, bien sûr que ce n'était pas parce qu'il était mort lui, mais parce que j'étais mort moi. Alors, est-ce que vous êtes mort, vous ? Est-ce que vous êtes mort ? Il est arrivé un moment, chers amis, où j'avais, moi aussi, comme le fils cadet de la parabole, tout dépensé. J'avais dépensé tout ce que le monde pouvait m'offrir. Et comme lui, eh ben, j'en suis venu à manquer de tout. J'avais découvert qu'une seule chose, que tout ce que l'on peut faire dans cette vie est absolument vide de sens. Vide de sens, à cause de la mort. Et moi, j'en suis arrivé à chanter le même refrain que vous connaissez tous de l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité », parce que la mort est le point final qui aplanit toutes choses, qui les rend toutes identiques les unes aux autres. Alors, à quoi bon le plaisir dans ces cas-là ? À quoi bon le travail ? À quoi bon la famille ? À quoi bon la philosophie ? À quoi bon aimer ? À quoi bon haïr ? À la fin, qu'on ait été bon ou mauvais, riche ou pauvre, sage, insensé, célèbre, anonyme, la mort, elle nous emporte. Elle nous emporte et elle emporte tout avec elle, à commencer par ceux qu'on aime. Alors quand vous en êtes à ce stade de votre vie, ben vous êtes mûr. Vous êtes mûr pour vous accrocher au premier charlatan qui passe. Et la question, c'est celle-là, qui guide votre vie ? Qui est-ce qui guide votre vie ? Le jeune de la parabole, quand il a manqué de tout, il s'est mis au service d'un des citoyens du pays. Quel pays ? Le pays de son père ? Non, pas le pays de son père. Le pays lointain dans lequel il s'était rendu. Et le texte original en grec ne dit pas exactement qu'il se mit au service. Il apporte une nuance que moi je trouve intéressante. C'est la nuance de « il s'accrocha, il s'agrippa à ce citoyen ». Le jeune de la parabole, il s'agrippa à ce citoyen comme un désespéré. Et ça, c'est le danger quand on est perdu. Il suffit de croiser quelqu'un qui représente une quelconque forme de salut, aussi médiocre soit-elle, pour vouloir s'accrocher à lui, même si ce salut consiste à aller nourrir les porcs. Vous savez ce que ça représente, un porc, pour les Juifs ? C'était une abomination, un animal impur. Il n'y avait pas pire métier que celui-là. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que quand vous vous trouvez dans cette situation, dans cette espèce d'angoisse existentielle par laquelle je crois qu'on passe tous à un moment ou à un autre de notre vie, vous avez aussi l'opportunité de vous tourner vers le bon pasteur, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et la décision, elle se trouve entre vos mains. Choisir Jésus comme guide ou choisir quelqu'un d'autre comme guide. L'option qu'il n'y a pas, c'est de penser que vous puissiez vous guider vous-même. Parce qu'on est des êtres profondément influençables. Ce n'est pas les publicitaires qui diront le contraire. Et je crois profondément que le seul pouvoir qu'on a, c'est de choisir qui va nous influencer. On peut choisir qui va nous influencer. Ce pouvoir-là, on l'a. Alors c'est le moment de vous poser la question, qu'est-ce qui a une réelle influence sur votre manière de penser et d'agir? Réfléchissez bien, essayez d'être honnête avec vous-même. Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est l'opinion de la société en général? Est-ce que c'est l'éducation que vous avez reçue? Et sûrement, c'est sans doute peut-être un mélange d'un peu tout ça, non? Alors j'aimerais attirer votre attention sur le fait que toutes ces sources d'influence, eh bien, elles sont terriblement, terriblement inconstantes. Il y a 70 ans, la politique officielle du pays trouvait de bon temps d'enseigner aux enfants à chanter « Maréchal, nous voilà » dans les écoles de France. Aujourd'hui, elle demande pardon pour la rafle du Veldiv. Il y a 50 ans, la société voyait l'avortement comme un meurtre. Aujourd'hui, elle le voit comme un droit. En ce qui concerne l'éducation, quelles valeurs sont les correctes? Est-ce que ce sont celles que vous ont inculquées vos parents ou celles que vos grands-parents leur ont inculquées à eux? Est-ce que ce sont les vôtres ou celles de vos parents, que vous avez jugé bon, vous, de rectifier? Alors dans ce cadre-là, je crois qu'on peut se demander comment est-ce qu'il est possible que les valeurs qui nous animent, qui nous font avancer, elles puissent se renverser au point que ce qui était bien hier, c'est mal aujourd'hui, ce qui était mal hier, c'est bien aujourd'hui. Et quand on réfléchit à ça, je crois qu'on peut aboutir à trois conclusions qui sont bien distinctes. La première conclusion, croire que la société évolue positivement. Aujourd'hui, on est plus sage, on est plus raisonnable qu'hier. Je ne sais pas si je dois m'étendre sur ce point. J'ai l'impression qu'il suffit d'allumer sa télé, regarder les infos, lire un peu le journal, s'informer un peu de ce qui se passe, surtout en ce moment, pour comprendre que ce n'est pas le cas, non? On n'est pas plus sage aujourd'hui, on n'est pas plus raisonnable aujourd'hui qu'on l'était il y a 50 ans, ça me paraît assez évident, non? La seconde conclusion, ça serait de dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mes grands-parents pensaient une chose, j'en pense une autre, bon, ils avaient raison peut-être à leur époque, j'ai raison à la mienne, tout est relatif, tout se vaut. Chacun détient sa vérité. Moi, j'ai la mienne. Ce n'est pas celle du voisin et elle n'est pas forcément meilleure. Et c'est une idée plaisante parce que c'est une idée qui semble très ouverte, très tolérante. Mais je crois qu'elle ne tient pas la route. Parce que le simple fait d'affirmer que la vérité est relative, c'est déjà prouver le contraire puisqu'on fait de cette phrase une vérité absolue, non? Si elle n'est pas absolue, enfin bon bref, vous avez compris. Voilà. Alors la troisième conclusion, évidemment, c'est la conclusion inverse. Il existe une vérité absolue. Alors il va falloir la trouver. Et moi je crois que si elle existe, il faut qu'elle se trouve dans une source qui soit immuable, une source qui ne bouge pas avec le temps, qui ne change pas. Alors entendre Jésus dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », ça nous confronte. Mais bien avant de nous confronter, je crois que ça nous choque. Je crois que ça nous déplaît. Je crois que ça nous fait mal. Seulement, voilà, il l'a dit. Et cette prétention-là, elle est vraie ou elle est fausse. Il n'y a pas de voie médiane. Elle est vraie ou elle est fausse. Et il est arrivé un moment où moi, je l'ai acceptée, cette prétention de Jésus. Je l'ai acceptée parce qu'auparavant, j'en avais accepté une autre. Jésus, il a dit, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Qui voit Jésus, voit Dieu. Si la vérité absolue existe, elle ne peut pas être mouvante. Elle ne peut pas changer selon l'air du temps. Elle doit naître d'un repère inamovible. Et il n'y a personne d'autre que Dieu qui soit inamovible. Et Jésus, parce qu'il est Dieu fait homme, est ce repère-là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes d'enseignements étrangers, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Dieu, le Créateur de la vie, s'est fait homme en Jésus-Christ. On peut passer. Jésus-Christ est la vie. Être séparé de lui, voilà ce qu'est la mort. Ce qui sépare les morts et les vivants, ça n'est pas le dernier souffle physique, la dernière expiration, c'est le premier souffle spirituel, la première inspiration, le souffle de l'esprit, celui qui fait qu'un homme se repent de son péché, qu'il naît à une vie nouvelle, une vie en relation avec le Père, une vie pleine. Jésus-Christ nous dit dans l'évangile de Jean, « Moi je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. » Alors, on passe au point suivant. Est-ce que vous en voulez, vous, de cette vie abondante ? Moi, je l'aurais bien voulu si j'avais su qu'elle existait. J'avais bien entendu parler d'un certain Jésus, non ? Et pour ce que j'en savais, eh ben, c'était un brave type, et puis c'était un bon orateur. Mais bon, à l'époque, peut-être aujourd'hui toujours, je ne sais pas, mais des illuminés, ben, il y en avait pas mal, quoi. Alors au début, ce qui m'a intéressé chez lui, ce qui m'a attiré l'attention, c'est qu'il ne s'entendait pas avec les religieux. Alors ça, moi, j'aimais bien. Ça me plaisait bien, ça. Ça me plaisait. Alors un jour, je me suis dit, bon, il n'est pas loin, je vais aller écouter un peu ce qu'il a raconté. Et c'est comme ça que j'atterris au chapitre 15, vous voyez, de l'évangile de Luc. Et là, je voudrais que vous compreniez une chose. La foi, ça ne consiste pas en croire une doctrine ou un système de pensée. Je dirais même plus, tout ce que j'ai raconté jusqu'ici, sans Jésus, sans la foi, sans la personne de Jésus, je ne sais pas quel poids ça peut avoir. La foi, c'est d'abord une question de relation. Ça commence toujours, toujours, par une rencontre avec Jésus-Christ. On peut passer. Tu peux passer. Bon, c'était celle d'avant, c'est pas grave. Alors, je vous l'ai dit, un jour, je suis allé écouter Jésus. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes allé, vous, l'écouter un jour ? Alors, j'ai déjà un peu de réponse, parce que si vous êtes là... Bon, bref. En tout cas, laissez-lui sa chance à Jésus. Laissez-lui son opportunité de vous parler. Et il parle beaucoup. Il parle d'abord dans la Bible, bien sûr, mais pas seulement. Et puis, c'est pas seulement écouter, c'est aussi parler. Dans la prière, on peut parler, nous aussi. Et alors, c'est lui qui écoute à ce moment-là. Moi, je suis allé l'écouter, et puis j'ai entendu qu'il faisait dire aux jeunes de la parabole « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi, ici, je meurs de faim. » Et moi aussi, je mourrais de faim. Moi aussi, je mourrais de faim. Je mourrais de faim spirituelle, parce que j'avais abandonné ce père qui me nourrissait. J'irai chez mon père, rêvait le jeune de la parabole. Et moi, je me demandais, c'est possible ça ? C'est possible un retour vers le Père, après ce que j'ai fait ? Je lui dirai, dit le fils de la parabole, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » Eh bien, c'est toujours possible. C'est toujours possible un retour vers le Père. C'est toujours possible pour qui se repent de son péché. On peut passer. Voilà, ça c'est le message, basiquement, non ? Réconciliez-vous, réconciliez-vous. Le Père, il est là, il attend avec anxiété, il scrute l'horizon pour voir si son enfant revient à lui. Et quand enfin il le voit, qu'est-ce qu'il fait, ce Père ? Il court se jeter à son cou pour l'embrasser. Il est tellement heureux qu'il ne lui laisse même pas en placer une. Le fils, il voulait dire à son père de l'embaucher comme l'un de ses employés, mais il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de finir sa phrase. Son père ne le laisse pas finir de parler parce qu'il a déjà vu le changement. Il a déjà vu ce virage à 180 degrés dans l'attitude du fils. Il n'a pas besoin d'écouter davantage. Il lui ramène les plus beaux habits. Il lui met une bague au doigt. Il lui met des sandales aux pieds. Il fait tuer le veau gras. Il organise une fête. On peut passer la diapo. Et ça, c'est la question. Vous aussi, laissez-vous transformer. Revenez au Père et laissez Dieu vous restaurer. Son fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Vous connaissez peut-être la parabole du mouton égaré, non ? Si un homme a 100 moutons, si un père a 100 fils, c'est un exploit, mais à part ça, si un homme a 100 moutons et que l'un d'eux s'égare, est-ce qu'il ne laissera pas les 99 autres dans la montagne pour aller chercher celui qui s'est égaré ? Et s'il parvient à le retrouver, amen, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 autres qui ne se sont pas perdus. Son fils est revenu. Il n'en fera pas un employé. Il va tuer le veau gras pour lui. Et pour vous aussi. Pour vous aussi, si vous revenez à lui. Un jour, un homme nommé Nicodème est venu voir Jésus. Il avait peur du qu'en dira-t-on. Alors il est venu la nuit. L'histoire, elle ne dit pas vraiment si Nicodème s'est réconcilié et s'il s'est laissé transformer par Jésus. Mais Jésus dit une chose à Nicodème, et j'aimerais bien vous la partager. Il lui dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus, il n'est pas venu juger votre passé. Il est venu vous donner un avenir. Jésus, il n'est pas venu juger le monde. Il est venu le sauver. Et pour le sauver, il a posé un acte d'amour sans précédent. Lorsque nous étions encore sans force, on peut lire dans l'Épître aux Romains, le Christ, en son temps, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon, peut-être. Or voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore rebelles. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus, Dieu fait homme, a mené une vie de parfaite justice, sans péché aucun. S'il est mort à la croix comme un criminel, c'était pas pour payer sa faute, c'était pour payer la vôtre. Et vous voilà libre d'entrer par la foi en Jésus-Christ dans une pleine relation avec le Père. Faites de Jésus votre Seigneur. Faites de Jésus votre Seigneur. Placez votre foi en lui et vous découvrirez en lui un sauveur. J'arrive à la conclusion et je vous demande une fois encore, où en êtes-vous ? Êtes-vous en paix avec Dieu ou au contraire, vous êtes-vous enfui, vous aussi, avec votre héritage ? Jésus-Christ, est-ce qu'il fait partie de votre quotidien ? Est-ce qu'il partage vos jours et vos nuits ? Est-ce qu'il est votre unique amour ou est-ce qu'il doit cohabiter avec de faux dieux, de vaines illusions ? Qui guide votre vie ? Est-ce que c'est Épicure ? Est-ce que c'est Bouddha ? Est-ce que c'est le mouvement des planètes ? Est-ce que c'est l'éducation que vous avez reçue, le gouvernement, la télé ? Ou bien est-ce que vous construisez sur le fondement solide de l'obéissance à Jésus-Christ, ce repère immuable, inébranlable, pour la bonne raison qu'il est Dieu ? Finalement, est-ce que vous avez fait l'expérience de la présence du Christ dans votre vie ? Est-ce que vous avez goûté la joie de sa présence ? Et puis surtout, est-ce que vous avez expérimenté une résurrection dans votre vie ? Est-ce qu'il y a un avant et un après Jésus-Christ dans votre vie ? Chers amis, comme vous le savez, je ne m'appelle pas Joseph. Je ne suis pas né en l'an 10 après Jésus-Christ, ça je pense que vous vous en doutiez. Je m'appelle Laurent. Et ça fait 8 ans que je me sens vivant, que je me sens pleinement vivant. Et on pourra me faire douter de tout. Mais on ne me fera pas douter que Jésus, il est venu dans ma vie, qu'il m'a sauvé, qu'il m'a transformé. On ne me fera pas douter qu'il est le seul guide qui vaille d'être suivi, le seul guide qui mérite d'être appelé Seigneur. Et tout le mal que je vous souhaite, c'est de vivre cette expérience-là. Et je veux vous dire qu'elle est possible. Elle est possible ici, elle est possible maintenant, et je le sais parce que moi je l'ai vécu ici, il y a 8 ans, dans cette église. Alors à la fin du culte, eh bien si vous le souhaitez, vous pouvez venir me voir, me parler, ou voir les pasteurs, qui vous voulez, quelqu'un dans l'église en qui vous avez confiance. Mais alors peut-être également vous êtes accompagné aujourd'hui, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous. Et peut-être que vous aussi, vous craignez un peu le qu'en dira-t-on, le jugement, le regard sur vous. Mais ce n'est pas grave, faites comme Nicodème. Bon, revenez pas de nuit parce qu'il n'y aura personne. Mais téléphonez, je ne sais pas, contactez quelqu'un. Venez, revenez à notre culte, seul peut-être. Mais en tout cas, laissez pas passer cette opportunité que vous avez. Cette opportunité que Dieu vous donne aujourd'hui. Et attendez pas. Ne laissez pas passer l'appel du Seigneur dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.